France Inter. Le masque et la plume. L'actualité du théâtre au sens large, c'est le programme du masque de ce jour, avec des pièces bien sûr, mais aussi du stand-up et une revue musicale. Pour en débattre à la tribune et face au public du théâtre de l'Alliance française, j'ai nommé Vincent Josse, de France Inter, que vous retrouvez le samedi pour la balade et le dimanche pour le grand atelier, les 2 à 17h. Plus le masque cette fin de semaine est décidément un week-end Josse. J'ai convié aussi Sandrine Blanchard du journal Le Monde, Fabienne Pascaud de Télérama. Et bien que ce soit une première pour lui, vous connaissez sa voix, qu'il peut vous faire entendre tout de suite pour tester le micro.
Bonsoir, que la musique soit avec vous.
C'est donc Laurent Goumard, avec qui vous avez rendez-vous sur Inter chaque soir et qui écrit sur le théâtre et la danse dans les pages de Libération. À l'affiche aujourd'hui une revue musicale, je l'ai dit, un monument du patrimoine grâce au spectacle Le Malade Imaginaire ou Le Silence de Molière. Deux nouvelles créations, à savoir Passeport d'Alexis Michalik et L'Enfant Brûlé mis en scène par une jeune artiste. Un stand-up, celui de Nora Hamzaoui, et la version théâtrale de L'Argent de la Vieille avec Amanda Lear tout en bijoux et paillettes. Danse, chant, texte, tragédies et comédies, c'est le programme du masque dans l'heure qui suit. C'était une fin d'après-midi d'été en terrasse, à Avignon, dans son courrier, Sandra Lafitte d'Allan dans la Drôme plante ce décor pour nous raconter sa rencontre avec la comédienne Julie Duval. Julie Duval qui est seule en scène avec son spectacle L'odeur de la guerre dont il fut question ici et qu'elle joue à la Scala à Paris jusque fin juin. Sandra Lafitte explique avoir découvert Julie Duval dans le Festival Off d'Avignon en juillet dernier et elle écrit « Comme Vincent Josse ». Mon ami et moi avons eu envie de prendre Julie Duval dans nos bras, mais non, nous nous sommes contentés de la féliciter. Le voilà, le théâtre qu'on aime, un propos fort, celui d'une jeune femme qui trouve son chemin, de l'énergie, du talent, pas besoin de mise en scène chichiteuse avec des vidéos pendant 4 heures. Quant à Léa Dorimont de Dijon, elle prend la peine de me donner l'heure dans son mail. Il tient en une longue énumération qui commence par 20h15... 20h35, 20h42, 20h45, etc. Avant de conclure, tel est mon compte-rendu des émigrants de Christiane Loupa, 4 heures de spectacle où grandit une pulsion infernale, envisager une reconversion en horloge parlante. Antoine Blanc, lui, n'a pas apprécié la pièce non plus et il commente au théâtre, trop de vidéos et de micros HF tuent l'imaginaire, sous couvert de modernité. Christine Kéralt estime au contraire que la vidéo permet de jouer entre l'intérieur et l'extérieur, et cette auditrice juge les comédiens des émigrants excellents. Claire Jambé de 7 tient à insister sur l'annulation des représentations des émigrants à la Comédie de Genève, en raison de la maltraitance de l'équipe technique par le metteur en scène Christiane Loupa. Le monde du théâtre n'a pas encore initié son MeToo, affirme-t-elle. Sauf votre respect. En général, quand un courrier commence comme ça, la suite s'annonce rarement caressante. Et en effet, Jean-Louis Ringaud d'Orléans écrit « Sauf votre respect, virgule, vous m'énervez. Je suis allée voir Alice Taglioni pour le spectacle Veldive et elle ne mérite pas vos critiques hautaines et cinglantes. Pendant la représentation, le public était happé, y compris les plus jeunes, pour qui la pièce a une vertu pédagogique. La signature de Jean-Louis est la suivante. Vous m'énervez, vous m'énervez, vous m'énervez. 3 fois. Mais à dimanche, enfin, Marielle Yalobard de Rivière-les-Fossés a intitulé son mail « Spectacle & Co ». Elle précise d'entrer nous écouter en préparant ses repas de toute la semaine. « Je ne vais jamais au théâtre », écrit-elle. « Je n'y connais pas grand-chose et n'ai pas les moyens de découvrir des spectacles. J'en aurais envie, mais comme vous savez, il y a un fossé entre désir et réalité. La vie des gens de peu vaudrait pourtant bien le vôtre. » Jamais je n'irai voir un spectacle qui me coûterait 200 euros entre le billet et le déplacement. À une exception près, cependant. Allez écouter Véronique Sanson, salle Playel. Et le mail de Marielle se termine par cette injonction. Souriez, c'est dimanche. On commence non pas avec Véronique Sanson, mais en musique tout de même, puisque j'ouvre cette émission avec Black Legends. Les légendes en question, ce sont 32 interprètes et leurs chansons, on pourrait même dire 32 tubes, hein, dont beaucoup de chefs-d'œuvre, incarnés par Aretha Franklin, James Brown, Tupac, Stevie Wonder, Beyoncé, etc. Black Legends nous fait traverser un siècle de musique noire américaine, de 1920 à aujourd'hui, mais aussi un siècle d'histoire politique et sociale, puisque l'idée est de replacer ces chansons dans leur contexte, celui de la ségrégation, de la lutte pour les droits civiques ou de l'élection de Barack Obama. Cette histoire de l'Amérique est dansée et chantée par une vingtaine d'artistes. Sur scène, il y a aussi 6 musiciens, que j'ai trouvé excellents, puisque toute la musique est jouée live, évidemment. L'ambition est pédagogique, parfois à gros traits, mais surtout festive, et le tout est écrit et mis en scène par Valérie Rodriguez à Bobino jusqu'au 28 avril. Et la parole est à Fabienne Pascaud.
Alors, j'ai été assez surprise, comme vous, par la qualité des danseurs, des chanteurs, qui nous font revisiter toute cette histoire américaine, hein, du Cotton Club jusqu'à Obama, qui chantent bien, qui bougent bien. Mais une fois passé le plaisir d'avoir entendu des tubes de la musique noire américaine, et dans toutes ses couleurs, dans toutes ses variétés, hein, du soul, enfin bref, tout, je dois dire que la mise en scène, là, est absente. Il n'y a pas d'histoire, c'est une succession de tableaux, certes
c'est
historiques, intéressants.
C'est d'abord l'écriture, Fabienne, qui est
absente. Pardon ?
C'est d'abord l'écriture qui
Vincent
est absente.
Voilà,
rien. Voilà l'écriture, rien. Mais c'est une succession historique, si tu veux.
Oui.
Donc, on peut penser que c'est son type d'écriture, parce que chronologiquement, ça se suit.
Mais prétend sinon, dire quelque chose et que ça ne dit rien à chaque fois.
Voilà. Donc, je suis pas emballée. Mais j'ai bien aimé réentendre ces chansons exceptionnelles, plutôt bien chantées.
Alors Vincent, comme tu as pris la parole
sur son fauteuil, à la fin les gens se
on lèvent. On se lève
effectivement,
même.
Effectivement, ça se
et danse, et danse.
Et danse, oui. Sur ce plan-là, c'est réussi, même si je trouve quand même la distribution un peu inégale sur le plan du chant et de la voix, mais je trouve ça très...
Oui, mais moi, je suis bon très... public, tu sais.
Oui, oui, tu as raison. je trouve que, justement, l'absence de texte et de propos et de regard sur l'histoire de la chanson noire américaine est déplorable. Moi, ça m'a vraiment mis en colère, ça, parce qu'on nous dit c'est blindé, vous aurez difficilement une place, etc., puis finalement...
On t'exagère un peu, quand même, on apprend des choses.
Oui, on apprend quoi?
Non,
mais
t'exagères,
non, on a juste,
parce que
par
toi,
exemple,
tu connais par cœur. Mais...
Les chants de coton, alors on va voir des esclaves habillés en blanc ramassés et puis chanter un gospel derrière, d'accord. Après, on va nous évoquer Rosa Parks, le Ku Klux Klan, etc. Mais suivi d'une chanson très rapidement, parce qu'ils n'ont rien à dire sur chaque événement historique.
Mais donc, chaque chanson est censée parler pour elle-même,
en fait. Parle pour elle-même, donc on va voir un spectacle de reprise... noire américaine, mais rien de plus, quoi. Et pour moi, c'est uniquement du zapping.
Sandrine.
Ah bah, je suis pas du tout d'accord.
Moi,
ça a été un vrai plaisir, j'ai adoré. Effectivement, je trouve que c'est à la fois au niveau de la danse, du chant, de la musique. Enfin, il y a un côté virtuose. J'ai aimé aussi les costumes. Je trouve que c'est un spectacle qui est ample et cette succession de tableaux chronologiques assumés. Moi, ça, à la limite, le fait qu'il n'ait pas cherché justement un espèce de récit à coller à tout ça, mais à montrer tous les apports de cette musique afro-américaine et puis tous les combats sous-jacents menés, etc. C'est un choix que je...
Oui, mais un peu naïf, la manière de montrer est un peu naïve, Sandrine.
Mais non, pourquoi naïve? Non, je suis pas d'accord. Alors effectivement, on pourrait dire que c'est peut-être un spectacle grand public. Oui, complètement grand public, mais extrêmement bien fait. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était que ça se poursuive. J'avais envie de rester dans la salle. Je suis vraiment sortie de là emballée.
D'autant qu'il y a des chansons par lesquelles on peut être surpris, où on se dit « Ah tiens, oui, cette chanson-là est reliée à cette histoire, en fait. »
Et notamment sur les violences faites aux femmes, il y a un moment absolument incroyable. Enfin, voilà, je vous trouve très dur.
Exigeant.
Pas aussi dur que ce que j'ai pu vivre pendant cette soirée, mais c'est interminable. En fait, non mais... Moi, j'ai eu l'impression, le sentiment très pénible, en fait, de voir sur scène un coffret double CD de Black Legends, c'est-à-dire les meilleurs tubes de la musique soul américaine jusqu'au disco. En plus, j'étais toujours en retard.
Jusqu'au rap. Train,
c'est-à-dire que pendant le disco, ils font lever la salle qui se met à danser. Moi, je suis resté coincé. J'avais pas du tout envie de danser là-dessus, alors que j'adore cette musique-là. Je sais pas, je vois bien l'intention. Je vois bien que c'est une comédie musicale, une revue qui, à un moment donné, veut passer du côté du concert. Il n'y a aucune dramaturgie. Les séquences, quand même, même où on voit les esclaves en train de mimer l'histoire du coton, mais c'est du Walt Disney. Enfin, c'est comme les reconstitutions pénibles qu'il pouvait y avoir pendant certains épisodes tragiques des histoires coloniales.
Et la vulgarité, la trivialité du monsieur loyal.
Ah, mais alors en revanche, les acteurs, les danseurs, les danseuses, les musiciens. Impeccable. Et le monsieur loyal, en fait, moi, je l'ai trouvé très bien. Et je me suis dit, mais heureusement qu'il est là. D'ailleurs, heureusement qu'ils sont tous là pour que quelque chose se passe. C'est un enfilage de perles comme un enfilage de tubes. Pas plus, pas moins.
Mais non, mais justement, en plus, ça donne envie de réécouter toutes ces musiques. Effectivement, c'est un répertoire archi connu. Mais finalement, on le connaît tellement qu'on finit par plus l'écouter. Et moi, ce que j'ai fait en sortant de ce spectacle, le lendemain, je me suis remis toutes ces musiques. Voilà, c'est...
Il y a juste aussi quelque chose qui m'a gêné, mais peut-être qu'à ce moment-là, je dormais.
Pourtant, le son est assez fort.
Partout. C'était une question de survie. À un moment donné, il y a une chanson de Prince, et je me suis dit, est-ce qu'ils vont mettre du Michael Jackson ?
Ils l'ont fait.
Réhabiliter Michael Jackson.
Alors, réhabilité, je ne sais pas, mais on l'entend.
En tout cas, sur scène, parce qu'on ne l'entend plus jamais.
Et d'ailleurs, c'est un très bon passage.
Et c'est notamment lié à la mort de George Floyd, où un tube de Michael Jackson a ressurgi sur les réseaux sociaux, dont le titre m'échappe là, évidemment.
C'est à ce moment-là, d'accord.
Et c'est là que tu t'es réveillé ?
Non, en effet, non, mais je me suis tellement interrogé sur cette chanson qui allait ou ne pas arriver que quand elle est arrivée, manifestement, j'étais déjà passé à autre chose.
Black Legends, donc, écrit et mis en scène par Valérie Rodriguez. C'est à Bobino jusqu'au 28 avril et la troupe sera au Corégie d'Orange le 16 juillet, peut-être même dans d'autres festivals d'été. Le spectacle suivant est écrit, lui, et mis en scène par Alexis Michalik, qui a connu et connaît toujours des triomphes dans le théâtre privé depuis une dizaine d'années avec des pièces comme Le Porteur d'Histoire, Edmond ou Les Producteurs, pour n'en citer que quelques-uns. Sa dernière création dont nous allons débattre s'intitule Passeport. Ça commence dans la jungle de Calais. Un homme se fait tabasser, à la suite de quoi on le retrouve agonisant et amnésique. La seule trace qui lui reste de son passé, c'est son passeport. Et on va le suivre, retrouver le fil de sa mémoire, tenter d'obtenir une carte de séjour, ouvrir un resto avec deux copains sans papier comme lui. À son histoire se superpose celle de Lucas, un jeune gendarme d'origine comorienne adopté par un couple de Calaisiens. Sept comédiens mènent passeport tambour battant face à une salle pleine. Chacun endosse plusieurs rôles au service d'un texte qui tend plus vers la fable que vers le documentaire. Et tout est bien qui finit bien. Sandrine, c'est toi qui ouvres le bal.
Eh bien, j'aurais aimé, voilà. Parce que Alexis Michalik, il a fait de très bonnes choses. Moi, je crois que j'ai vu absolument toutes ses pièces. Et quand il est dans les sagas historiques comme Edmond, Le Cercle des Illusionnistes, Le Porteur d'Histoire, vraiment, c'est des très, très bons souvenirs. Et là, j'y ai pas cru. Parce qu'il a beau dire qu'effectivement, on tire plus vers la fable. Il a beau dire qu'il n'a pas voulu faire une pièce politique, mais romanesque. Je suis désolée, vu les sujets qu'il aborde, forcément, c'est politique. Et puis, je trouve qu'il veut trop en dire, embrasser trop de sujets, que ce soit voilà, la quête de l'identité, l'accueil des migrants. Il y a un moment, un passage de quasiment documentaire très, très long sur tout le processus des organismes
pour obtenir une carte de séjour.
Une carte de séjour. Et moi, il y a un moment où je me suis dit, non, là, c'est trop, c'est pas possible. C'est justement quand il veut ouvrir son restaurant et qu'il invite un banquier à manger et on est dans une espèce d'ambiance top chef et tout est formidable et le banquier est d'accord et hop, il va ouvrir son restaurant et tout. Enfin, je trouve que tout est too much, quoi. Mais je pense malgré tout comprendre que ce spectacle puisse complètement rencontrer un public, parce qu'effectivement, on ne s'ennuie jamais. Il y a la patte Michalik, assez endiablée, avec plein d'activités, mais...
Une amoureuse déçue.
Ouais.
C'est un spectacle dangereux, d'ailleurs, parce que c'est un spectacle qui fait croire que tout va bien du côté des immigrés, que tout est facile, qu'on obtient les cartes de demande d'asile à l'OFPRA comme ça, qu'il suffit d'aller à la bibliothèque pour se faire un petit récit.
Et que la bibliothécaire tombe amoureuse de toi.
Voilà. C'est bien construit, comme fait toujours Michalik, avec des effets de tiroir, de miroir. Ça va vite. Michalik, c'est quelqu'un qui déteste s'ennuyer. Donc ça va à une vitesse et on n'a pas le temps de s'ennuyer non plus. Les comédiens à vue changent de décor, c'est habile, il y a même de la vidéo pour expliquer ce qu'il ne fait jamais d'habitude. Mais qu'est-ce que c'est cucu ? C'est pas possible quand on sait ce que vivent les immigrés. C'est pas possible de faire un spectacle comme ça.
C'est parfois pas loin du conte de fées.
Voilà.
Mais c'est ça.
Laurent.
C'est un conte de fées. Moi, j'ai été cueilli. Moi qui avais peur. Eh ben oui, non, mais franchement, tu parlais tout à l'heure d'un spectacle grand public. C'est un spectacle extrêmement populaire. En effet, grand public.
On ne peut pas faire croire ça au public.
Extrêmement bien fait. Mais c'est une fable. Personne ne croit aux fables.
Mais l'idée de faire croire.
Bah, moi, depuis Bethlehem, je pense que je ne crois plus au conte.
Oh là là, on est dans la psychanalyse du conte de fées.
C'est hyper bien fait. Ça, c'est vrai. C'est la patte michélique. J'en ai pas vu trop, mais je reconnais qu'il y a une fluidité sur scène que je n'ai pas vue dans bon nombre de mises en scène contemporaines. Les acteurs sont formidables. Ils font passer des choses absolument invraisemblables. Par exemple, à un moment donné, il y a un dîner entre un père raciste qui a adopté un enfant de Mayotte, donc un enfant noir. L'enfant noir revient au foyer, donc chez ses parents, avec sa copine qui est noire, qui elle est née à Toulouse, d'origine guadeloupéenne ou quelque chose dans ce goût-là. Et elle est journaliste. Et donc, il va y avoir un affrontement pendant le repas entre le père, on va dire, raciste avec un côté Front National, ou c'est un autre nom aujourd'hui, mais c'est exactement la même chose, et de l'autre côté, donc, cette journaliste qui va défendre ce qu'est la réalité aujourd'hui des chiffres par rapport à l'immigration. C'est extrêmement didactique. C'est un texte hyper casse-gueule. L'actrice est tellement bonne, je vais donner son nom, Manda Touré, qu'elle arrive vraiment à faire passer le truc. Il y avait un silence, tout le monde écoutait, mais pas une leçon. C'est-à-dire que vraiment, je trouve que Michalik arrive à faire quelque chose qui est sur un sujet complètement casse-gueule. Et peut-être qu'on peut voir aussi l'histoire de la migration, des migrants, comme une odyssée. Et autre chose que chaque fois quelque chose de dramatique.
Mais quand Yann Mouchkine s'attaque à l'immigration et fait le dernier caravansérail, c'est quand même autre chose.
Mais
c'est aussi du théâtre populaire.
Ah, mais je suis tout à fait
totalement populaire.
Ça. Mais là, on est du côté, en effet, du conte de fées, du happy end à la fin. Même chez Molière, à la fin, les enfants s'épousent, etc., etc. Il n'y a pas de raison que chez Michalik, ça ne se passe pas et qu'on lui injecte le fait qu'il travaille les bons sentiments. Pour une fois, je trouve, on les travaille bien.
Vincent, pour terminer.
Ça me toujours les bons sentiments au cinéma ou au théâtre. Et là, c'est vraiment un théâtre de bons sentiments, mais un théâtre qui sait faire. Il est doué, Michalik, on le sait depuis longtemps. Il sait raconter des histoires, c'est un conteur. T'as raison de parler de conte, c'en est un. Mais je suis pas sûr que ce soit un bon conteur social. On peut pas échapper au fait que, ce qu'évoquait Fabienne, le migrant ne réussit pas. C'est un parcours du combattant, c'est une grande souffrance, c'est de la perte, ce sont des deuils. Et c'est pas possible, je crois, de présenter la migration sous ce jour-là. Et...
Passeport d'Alexis Michalik donc, se joue au Théâtre de la Renaissance jusqu'au 30 juin et c'est un tel succès que ça devrait être prolongé la saison prochaine avant de partir en tournée. La prochaine pièce se jouera à Caen, Cergy, Dunkerque puis à nouveau Paris en avril. Il s'agit du Malade imaginaire ou le silence de Molière. Comme son titre l'indique, la pièce entrelace deux textes, le Malade imaginaire qu'on connaît, plus le silence de Molière, de l'écrivain italien Giovanni Macchia, qui met en scène un personnage peu connu, la fille unique de Molière. C'est donc un spectacle où la frontière n'existe plus entre la vie de Molière et son œuvre. La pièce fut créée il y a 25 ans par Arthur Nosiciel. C'est d'ailleurs sa première mise en scène et il l'a remet sur le métier aujourd'hui. 25 ans, c'est quoi? C'est le temps d'une génération. La nouvelle est incarnée par les acteurs issus de l'École du Théâtre National de Bretagne, que Nosiciel dirige. Quant à l'ancienne génération, c'est Arthur Nosiciel lui-même, plus deux comédiens qui étaient à la création, à savoir Laurent Poitrenaud et Catherine Vuillet. Les prochaines dates de ce spectacle sont les 13 et 14 mars à la Comédie de Caen, et depuis la scène du Théâtre de l'Alliance Française. Qu'en as-tu pensé, Laurent ?
Alors moi, ça m'a intéressé. Ce que j'ai trouvé passionnant, c'est de voir que c'était le premier geste d'un jeune metteur en scène. Et quand on est jeune metteur en scène, d'abord, on veut faire entendre quelque chose du théâtre, quelque chose qu'on n'a pas entendu dans les pièces qu'on a déjà vues chez les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à cette époque-là, tout jeune metteur en scène, il prend un texte dont il veut trouver véritablement le secret. Et le secret, c'est donc cette Louison. Louison, c'est la petite fille de 7 ans qui joue dans Le Malade imaginaire, à qui son père demande, est-ce que sa fille, l'autre fille, a une relation avec celui qui est son maître chanteur ou je sais pas trop quoi. Et Louison, dans la pièce, va dire non, qu'elle ne sait pas, elle résiste à son père. Et il y a toute une histoire entremêlée, donc, de qu'est-ce que cette petite fille de 7 ans est devenue dans la réalité. Et dans la réalité, c'est la fille de Molière, celle qui a dit non ensuite à toute une génération de théâtre. Je trouve que c'était un premier texte. Aujourd'hui, en revanche, juste finirai là-dessus, donc il reprend par une histoire de filiation les acteurs qui étaient là au départ. Et au départ, d'ailleurs, il y avait même son père, Arthur Nosiciel, qui l'avait fait jouer dans la pièce.
Et maintenant,
mais je dois dire une chose, c'est que dans la jeune génération, je ne les ai pas trouvés très forts. À part qui s'appelle Emen Bouchou, que j'ai trouvé excellent. Les autres, je les ai trouvés inexistants d'un point de vue dramaturgique.
Raphaël Rousseau d'Antoinette.
Entre les deux, j'arbitre. Fabienne, Pasco.
Moi, j'ai été très, très déçue. Je n'avais pas vu le spectacle à la création, mais je trouve reprendre le théâtre, la beauté du théâtre, c'est l'éphémère. C'est-à-dire que c'est valable à une époque donnée, à un temps donné, que le metteur en scène construit sa mise en scène en fonction de l'époque, en fonction de ce qu'il sent. Et ça, j'ai trouvé ça terriblement daté, moi, cette mise en scène-là. C'était une mise en scène appuyée, vraiment, où Nausiciel, avec des sabots, veut nous faire comprendre que le malade imaginaire reflète la vie de Molière, que Molière a peur de mourir. Tout ça est pesant, c'est du théâtre un peu à thèse, lourd, dans des décors signifiants aussi. Ah non, j'ai trouvé que les acteurs en faisaient des tonnes. Laurent Poitrenaud, que j'aime beaucoup, dans la première scène, où Argan donne la liste des médicaments qu'il doit prendre. Mais c'est un supplice.
Tu le dis avec le bon ton.
Regarder, mais ça dure des plombs. Mais pourquoi? Pourquoi?
Là, il fallait un plan.
Total. Les yeux effarés. De
Oui. Enfin, moi, je trouve qu'il y a deux supplices.
Sandrine Blanchard.
Il y a deux supplices. Il y a effectivement celui dont parle Fabienne. Et puis, moi, je suis désolée, le monologue du milieu... qui est interprété par Catherine Vuillez.
C'est magnifique, ça.
Ah bah alors.
Ah mais ça j'ai trouvé ça beau.
Attendez, Sandrine.
Très beau.
Donc excusez-moi, mais moi cette rupture de ton, ce monologue joué de manière extrêmement théâtrale, extrêmement long. Moi,
c'est le seul intérêt de la pièce.
Ah oui, Sandrine.
Non, pas Sandrine, visiblement.
Pas intéressant. Je dis que la manière dont ce monologue est amené et interprété. Je ne comprends pas.
Moi, je trouve que le spectacle commence
lourd,
à ce moment-là.
C'est lourd, c'est lourd. Et j'ai beaucoup aimé la dernière partie. Je trouve que c'est quand même un spectacle qui monte en puissance. Et puis, il y a des parties de pantomime dans la dernière partie qui sont quand même assez incroyables. Et notamment avec cette comédienne...
Où on se croirait dans un western.
Raphaël Rousseau, que je veux reciter, parce que moi, je l'ai trouvé génial, Antoinette. Et il y a un autre truc que j'ai trouvé génial, c'est les costumes des hommes. On dirait des oiseaux ébouriffés. C'est des costumes en patchwork avec des comment on appelle ça?
Perruques.
Des perruques absolument insensées. Merci Laurent. Avec des perruques faites avec un matériau absolument insensé. J'ai été assez fascinée par ces costumes.
À quoi ça ressemble un oiseau ébouriffé?
Eh bien, ça, imagine
pas, un oiseau pas à toi,
avec,
Vincent.
Avec des plumes tout ébouriffé.
Mais tu as le micro.
Moi, j'ai trouvé ça très cérébral, pièce à thèse, appuyée. Poitrenaud, qui est un immense comédien, on avait du mal, en plus, à supporter ses cris au début. Il est censé être mourant et il hurle. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis ensuite, il assiste à la pièce. Donc, il ne joue pas pendant longtemps. On se dit, c'est dommage que Poitrenaud ne joue pas davantage. Les jeunes ne sont pas très bons. C'est encore une distribution très verte. Et ça pose un vrai problème d'écoute et d'attention. On lutte un peu contre l'ennui qui nous gagne vraiment, hélas, parce que ce n'est pas souvent le cas avec Nausiciel. Et pour moi, le spectacle commençait quand sa petite fille devenue grande, on imaginait qu'elle était devenue grande et qu'elle disait ce qu'elle avait vécu, son refus du théâtre, etc. Ça, j'ai appris quelque chose, j'ai découvert quelque chose et je trouve que c'est extrêmement bien interprété à ce moment-là, qu'il se passe quelque chose sur le plateau, mais que sinon, il s'interdit le comique de la pièce, c'est-à-dire qu'on ne rit jamais. Le malade imaginaire n'est pas drôle.
C'est une tragédie dans les couleurs du deuil, le blanc.
Voilà, ce serait presque obscène de faire rire le public et ça me pose problème, moi, ça.
Le malade imaginaire ou le silence de Molière d'Arthur Nausiciel est au CDN de Caen les 13 et 14 mars, je l'ai dit, puis à Cergy les 3 et 4 avril, Dunkerque les 11 et 12 avant Paris, à la Villette du 24 au 27 avril, toujours. Le spectacle dont nous allons parler maintenant n'a pas de titre, mais un nom, Nora Hamzaoui. Comme elle le dit pour commencer, en tout cas le soir où je l'ai vu, le dossier que Nora Hamzaoui connaît le mieux, c'est elle. Une femme de 40 ans, en couple, avec un enfant en 2024. Comment la vie intime et quotidienne de cette femme est percutée par un monde qui part en sucette? Toutes et tous, je crois que nous avons vu ce spectacle en rodage, tandis que Nora Hamzaoui joue en ce moment aux Folies Bergères avant une tournée dans toute la France. Et pour ma part, j'ai eu la sensation d'une conversation très drôle et lucide. Nora Hamzaoui, ne me regarde pas comme ça, Fabienne. Conversation, puisque Nora Hamzaoui se saisit de tout ce qui se passe dans la salle.
Un peu trop.
Les gestes, les postures et même les interventions du public. Un peu trop, t'as trouvé, Vincent?
Oui,
elle t'a interpellé?
Non, Ah, ça doit être pour
dommage.
Ça.
Dommage. Oui, c'est pour ça.
Non, je plaisante. Effectivement, c'est du rodage, donc elle nous prévient dès le début que c'est pas tout à fait le spectacle que vous verrez plus tard, et qu'elle accepte qu'on discute avec elle, etc. Et sans arrêt, elle interpelle le public. S'il y a un rire, elle va aller du côté du rire et parler de la personne qui a ri. C'est systématique et c'est pénible. Et surtout, moi, j'en ai un peu marre de son nombril, là, Nora Hamzaoui.
Mais c'est pour ça qu'elle parle au public. Mais heureusement qu'elle se
alors,
saisit
on
du
avait le droit
pour qu'elle arrête de parler d'elle.
On avait le droit.
Mais en parlant d'elle, elle parle de nous.
Oh, non,
oui,
non,
mais il y a cette idée d'identification.
C'est trop facile de dire
non.
Ça.
Ah, non, c'est pas facile.
Je n'ai pas envie de savoir qu'elle refait l'amour avec son copain ou son mari, je m'en fous, après sa grossesse, etc. C'était marrant chez Bretechet il y a 30-40 ans.
Mais c'est ça, son spectacle à son âge, il a 40 ans.
C'est la caricature de 40 ans depuis 100 ans.
Mais non, je suis pas d'accord. Absolument pas d'accord.
Elle a toujours la même façon, c'est-à-dire que la même façon d'agir sur scène. Toujours énervée, elle est toujours en colère, et t'as envie de lui dire, mais sors de toi, ouvre la fenêtre et regarde ce qui se passe dans le monde, tu trouveras d'autres choses, parce que t'as du talent, tu sais raconter les choses, donc regarde ailleurs que là.
Mais elle regarde ailleurs, il me semble.
Mais oui, elle regarde ailleurs, moi je suis désolée, c'est peut-être facile de dire qu'en parlant d'elle, elle parle de nous, mais si, c'est son troisième spectacle, et j'ai le sentiment que là où elle est bonne, pour moi c'est une des meilleures stand-upeuses, c'est qu'elle arrive justement à se renouveler. Là, elle a 40 ans, c'est pas la même histoire que dans le spectacle précédent où elle raconte
30.
La question de la maternité, etc. Donc ça, vraiment,
ah oui, parce qu'elle
non,
raconte
honnêtement,
sa vie. C'est sa vie qui se renouvelle, c'est
mais
pas
oui,
son art du
mais
spectacle.
Oui.
Mais ce sont les thèmes aussi, de fait, Sandrine.
Et puis je pense que c'est le principe même d'une partie du stand-up, c'est que d'un soir sur l'autre, c'est pas tout à fait la même histoire et pas tout à fait le même spectacle, et que ça, c'est quand même un exercice très difficile pour moi d'arriver à utiliser à bon escient le public, et je pense qu'elle y arrive sacrément bien. Et moi, elle me fait rire parce que j'adore sa mauvaise foi, j'adore son ton décomplexé. Vraiment, elle me parle, et je pense qu'elle parle à beaucoup.
Pas à Fabienne, visiblement.
Non, pas du tout. moi, c'est la caricature des femmes de 40 ans, un peu hystériques, un peu...
Oh là là,
qu'il a dit.
Non, mais c'est vrai. Il y a des choses drôles. Par exemple, sa réhabilitation des antidépresseurs, tout ça, tout ce qu'elle peut raconter, ce qu'elle peut raconter sur sexualité, ce qu'elle peut raconter sur les femmes vieilles qui se ressemblent toutes à 65 ans avec les cheveux courts, gris et puis des lunettes rouges. Elle peut être très drôle, mais ces filles-là racontent toujours la même chose. Moi, je n'en peux plus de cette génération de stand-upeuses-là.
Mais c'est quand même dingue.
Fini.
Non,
mais non,
c'est quand
mais
même
non,
dingue
ça
qu'on
commence.
Arrive encore à parler de choses comme dont elle parle. Et donc là, elle a 40 ans, son mec ne sait pas où est la vaisselle. À 50 ans, elle va revenir, il ne saura pas pourquoi il y a 3 poubelles dans la cuisine.
Mais c'est toi qui écris les sketchs.
Mais je vais lui écrire son truc. Ce qu'elle a
non,
pour elle,
non,
c'est
évite,
que sur scène,
évite.
Elle tient la route. C'est-à-dire,
ah ben ça,
elle
c'est
parle
sûr.
Très vite, elle est très à l'affût de ce qui se passe, elle est très réactive, elle tient vraiment le public, il y a vraiment aucun problème. C'est une très bonne actrice, mais je trouve qu'au niveau de l'écriture, c'est paresseux.
Ah, pour ma part, j'ai trouvé ça très très fluide et virtuose. Nora Hamzaoui, donc.
Moi, je suis sortie avec le cœur beaucoup plus léger.
Et moi donc. Nora Hamzaoui joue au Folies Bergères jusqu'au 30 mars, avant une tournée dans toute la France avec des escales à Clermont-Ferrand, Bordeaux, Besançon, etc., entre octobre 2024 et février 2025. On passe maintenant à un tout autre registre avec L'Enfant Brûlé, troisième création de la jeune metteuse en scène Noémie Ksikova. Il s'agit de l'adaptation du roman de l'écrivain suédois Stig Dagerman. L'Enfant Brûlé en question se prénomme Bengt. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui vient de perdre sa mère. Il est inconsolable, il ne s'en remet pas, d'autant qu'il se retrouve face à son père qui, lui, vit un nouvel amour depuis quelque temps déjà. La fiancée de Bengt et la maîtresse de son père entrent en scène, tantôt dans l'appartement du père et du fils, tantôt dans un lieu de vacances. C'est donc l'histoire d'un jeune homme que le chagrin rend dangereux, vulnérable, imprévisible, si bien qu'on suit ce spectacle comme un thriller. Fabienne.
Oui, moi,
tu me regardes au-dessus de tes lunettes qui ne
oui.
sont pas rouges.
C'est un spectacle que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve, je n'avais pas lu le roman de Stig Dagerman qui s'est donc suicidé, qui a été abandonné par sa mère. Donc il y a sûrement des tas de liens autobiographiques dans le spectacle. Mais ce que j'ai aimé et ce que j'ai apprécié dans le travail de cette jeune metteuse en scène, c'est qu'elle arrive à tisser une narration qu'on suit de bout en bout, 2h15 durant, avec un suspense très angoissant, alors qu'il se passe pas grand-chose. Et finalement, tout est dans ce qu'on peut entendre, c'est un décryptage presque sensuel, à partir de sons, à partir de tout ce que vivent ces personnages. Alors, c'est toi qui t'intéresses à la psychanalyse, là, il y a de quoi faire.
Là, tu désignes
avec
Laurent.
Le jeune homme Bengt. Oui, je désigne Laurent, qui est un admirable comédien que je ne connaissais pas, qui est Théo Oliveira Machado, très excellent. Étrange, qui est à la fois narcissique et
inquiétant.
Paumé, inquiétant, perdu. Et ses rapports avec les femmes, ses rapports avec... Qu'est-ce que c'est que la place d'une mère, puisqu'on voit la part de destruction que peut représenter la mort d'une mère, la recherche de la mère, mais est-ce que la mère n'est pas aussi responsable d'avoir mal élevé cet enfant pour qu'il soit si malheureux ? J'ai trouvé ça admirable.
En tout cas, c'est pas si fréquent d'avoir peur au théâtre. C'est-à-dire
exactement.
De se dire, mais que va-t-il se passer maintenant ? Il va tuer tout le monde
et que
ou
va
pas
faire ce garçon ? Ça voilà. Pourrait être un serial killer. Hein.
Ouais,
ah oui, moi, il y a
à la réponse, que va-t-il
Laurent.
Se passer ? La réponse, c'est rien. Parce qu'il ne se passe rien.
Mais c'est ça
c'est
qui est beau.
C'est le pire spectacle que j'ai vu cette année.
Oh non ! Oh non !
Le pire.
Oh non,
mais il ne se passe
pas. Pas une fois, j'ai regardé ma montre. Elle arrive à maintenir
ma montre
une tension.
Tout le temps, c'était ma meilleure amie. Et elle m'a déçu systématiquement.
Mais il ne se passe pas rien, on ne va pas spoiler ce qui...
Non, il ne se passe rien.
Il se passe des tas de choses. C'est Phèdre. Ça pourrait même être Phèdre.
Il n'y a aucune adaptation. Son texte est d'une faiblesse totale.
Tu ne peux pas dire ça.
La platitude...
Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'adaptation. Le texte de Stieg Dagerman, elle en fait autre chose.
Elle en fait...
très tranchant et très net.
Donc elle l'adapte pour en faire quelque chose de très plat. Et alors, vous parlez tous parce que vous avez manifestement aimé. Vous parlez de ce mais le décor, c'est le pansement qu'elle a mis sur l'absence de théâtre qu'il y a dans cette pièce.
Mais non, tout
le
est
décor
fluide.
Prend toute la place. Je me suis demandé tout le temps, mais combien ça a coûté ?
Vous oubliez une chose, c'est le chien.
Ah, il est génial.
Il est formidable. Moi, je lui donne le Molière de la révélation.
Et est-ce que sa mort n'est pas troublante ?
C'est le Raphaël Quenard des chiens.
Il est génial. Hein ?
Mais encore.
Il est dernier à saluer, il reste sur scène, il est complètement cabot, on adore. À part, c'est la seule chose qui se passe vraiment.
Oh, mais arrêtez, enfin.
Non, mais... Ah, mais vraiment.
Le problème, c'est que.
Et les relations avec la belle-mère, c'est rien. Et les relations avec la fiancée, les viols de la fiancée, mais c'est admirable, Loumire Brabant.
Mais
c'est
pourquoi
rien.
Tenir autant les.
Il se passe ça.
Attends, Fabienne, s'il te plaît.
Et donc les spectateurs à distance. C'est très froid. Alors qu'on parle de chair, tu disais que c'était sensuel. C'est tout sauf sensuel et ça devrait l'être. Elle les déshabille sans arrêt, ces comédiens, pour rien. Pourquoi ? Il se passe rien.
Aucun jeu.
Un vrai problème de théâtre, il n'y a pas d'enjeu.
Moi, je trouve que c'est une chronique intimiste. Un...
Sandrine Blanchard,
elle est
pour terminer.
Dans une distance que je ne comprends pas.
Sandrine,
non, je suis
pas d'accord. Moi, je trouve que c'est à hauteur de Jean. Il y a, je ne sais pas pourquoi, je me souviendrai, je pense, encore longtemps, de cet échange... qu'on entend au tout début, de ce dialogue entre la mère et son enfant. Elle veut qu'il dorme, elle va le coucher. Lui, il a envie que sa mère reste auprès d'elle.
Ça n'est que du son, ça, d'ailleurs. Hein.
Ce
on
n'est
est plongé dans le noir et on entend ce moment.
Et puis alors là, cet échange, il m'a bouleversée. Ce moment m'a bouleversée.
T'es une grande sentimentale, en fait, Sandrine.
Bah, moi aussi.
Tu es une grande sentimentale.
Ah oui, ah, non, complètement. Oui, mais...
C'est beau.
Et donc, après, moi, je trouve qu'il y a une atmosphère. Je suis d'accord, il y a des longueurs... Mais on se fait prendre dans ce huis clos, enfin, avec ce personnage central qui vraiment, moi, au bout d'un moment, me glace. Mm-hmm. On est à hauteur d'homme et on est dans de la psychologie, quoi.
Moi, je trouve que le jeune homme, qui est un très bon comédien, devrait nous faire beaucoup plus peur encore.
Mais quand il est assis à table et qu'on le voit de profil avec ses mains sur la table en formica, où on a ses longs doigts, on a l'impression que c'est comme des araignées. Enfin, c'est des images qui restent, ça, quand même.
Tu avais bu avant le spectacle.
Mais
sous
non,
acide.
Pas du tout.
C'est la seule façon de le voir.
Ils sont tous remarquables.
Alors je les cite.
Oui, le père est très bon aussi.
Théo Oliveira Machado.
Vincent toujours formidable.
Loumire Brabant. Vincent Dicès, vous venez de le dire. Ouais. Et Cécile Péricone. L'enfant brûlé dans une mise en scène de Noémie Ksikova.
C'est à voir sous acide.
C'est à l'Odéon Théâtre de l'Europe. On termine ce masque dédié à l'actualité de la scène avec L'Argent de la Vieille, nouvelle adaptation théâtrale et contemporaine de la comédie italienne réalisée par Luigi Comencini en 1972. Pour rappel, une vieille milliardaire organise des parties de cartes dans sa villa avec la promesse que les gagnants mettront la main sur sa fortune. Ici, ses adversaires se prénomment Jean-Louis et Pierrette,
un couple de pauvres, comme ils disent. Jean-Louis et Pierrette espèrent rafler la mise, tandis que leur fille Anastasia est domestique de la vieille plaine aux As. Cette milliardaire est interprétée par Amanda Lear, applaudie dès son apparition sur scène. Son majordome, c'est Olivier Pagès. Le couple, quant à lui, est composé d'Atmen Khelif et de Marie Parouti. Et Jeanne Perrin complète la distribution dans le rôle de leur fille. Le tout est signé Raymond Acquaviva pour la mise en scène. Et la pièce se joue au Théâtre Libre à Paris. Vincent.
Ça rit pas beaucoup dans la salle, hein, et c'est normal parce que c'est épouvantable.
Ça dépend des soirs, moi ça riait.
Moi aussi ça riait.
Il n'y a pas forcément de mauvais comédiens. Hein. Tu citais Marie Parouti.
Oui.
Et Jeanne Perrin qui tiennent vraiment la route et qui essaient de faire quelque chose, mais il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'on est très très loin du film où il y avait une analyse très fine des rapports économiques, des rapports sociaux, des rapports affectifs entre les riches et les pauvres. Et là, on a une riche et des pauvres qui sont des pauvres cons. C'est-à-dire qu'on est dans la caricature absolue. Elle, c'est une femme bling-bling, mais qui n'a pas tellement d'intérêt. Elle a une réplique qui est de se tromper sur le prénom de la jeune servante, donc qui s'appelle Anastasia, et elle l'appelle Rachida. Alors on lui dit, mais non, c'est Anastasia. Je sais plus ce qu'elle dit, parce
aucun
que je perds toujours les chutes.
Aucun intérêt.
Intérêt.
C'est la même chose.
Chipolata,
Chipolata, Rachida. Bon, des mots en A. Et c'est la seule chose qu'elle joue, au fond. Elle est au début dans un fauteuil roulant, puis elle se lève un peu. C'est pas le problème, Amanda Lear. C'est quelqu'un qui a une présence, on l'aime bien, Amanda Lear, mais...
Et puis elle se glisse bien dans ses répliques plus ou moins cruelles.
Ils n'ont qu'un texte vulgaire et presque indécent à jouer, quoi. C'est vraiment dommage. On est encore une fois très loin du film, mais c'est une adaptation pour rien, quoi. Gardez vos sous.
Bah, c'est une adaptation qui a
Sandrine.
Qui a complètement raté son lifting, on pourrait dire. Mais pas ses costumes.
Les costumes sont somptueux.
C'est audacieux.
Je pourrais tous les porter.
Hein, les costumes d'Amanda Lear sont intéressants. Non, moi, je trouve que c'est terrible à quel point on a perdu toute la saveur et l'intérêt du film. Alors, on pourrait dire, ça peut aussi, on peut ne pas avoir vu le film et découvrir cette pièce comme ça, sauf que on ne sait rien de la réalité de la vie de ce couple de pauvres. Dans le film, toute la question de là où ils viennent, du bidonville, de leurs trois enfants qui travaillent, etc. Enfin, c'est quelque chose de majeur.
Ils font jouer un con, il est stupide.
Ah, mais c'est
voilà,
c'est
donc
terrible.
Le pauvre égale.
Ah, bah, c'était Alberto Sordi.
Oui, c'était la même chose
aussi,
dans le film,
hein,
mais c'est plutôt pas mal, ça.
Mais toute la dimension de comédie sociale, de comédie à l'italienne, on l'a pas du tout.
Il est absent.
Et là, on est dans un espèce de vaudeville, quoi, un peu gueulard, qui est à la gloire d'Amanda Lear, parce que, excusez-moi, j'ai l'impression que tous ceux autour sont des faire-valoir d'Amanda Lear. Enfin,
bien entendu.
Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça, mais pathétique. Enfin,
C'est vrai.
Hein? Qu'est-ce que tu penses?
Non, mais c'est vrai.
Toi, les costumes.
Mais le meilleur commentaire, c'est que ça se passe au Théâtre Libre et que Amanda Lear est en roue libre. Ça n'arrête pas. En fait, elles sont toutes
construites
pour elle. Non, tout a été. Non, c'est parce que tu as dit le Théâtre Libre et je ne pensais plus que c'était là-bas. Mais c'est vrai, tout est construit autour d'elle, toutes les répliques, elle les dégaine, elle les débite. Quand est-ce qu'on va arrêter de nous faire croire qu'Amanda Lear est une reine du boulevard?
Elle est pas mal, Amanda Lear.
Non, mais elle est pas mal. Elle fait le job. Elle fait le job bien. Mais elle est dans une mise en scène qui n'existe pas, signée Raymond Acquaviva, qui en fait deux ou trois par an. Donc vous imaginez bien le soin qu'il peut prendre, à moins qu'il soit génial, mais le soin qu'il peut prendre à ses mises en scène. Il y a un beau décor, style au théâtre ce soir. Voilà. Il y a des beaux costumes, style au théâtre ce soir.
Finalement.
Il y a une actrice qu'on a mis au milieu, comme une potiche, que tout le monde regarde, parce que tout le monde est venu voir Amanda Lear. Et c'est pas plus que ça. Mais ça pourrait être bien que ce soit ça. Mais alors, il faudrait que quelque chose explose, que ça dégage.
Jacqueline Maillan.
Et là, voilà, Maillan, ou même celle qui part toujours comme ça.
Je sais plus Chantal Latsou.
Chantal Latsou, enfin, qui a un tempérament.
Non, mais Chantal Latsou,
ceci était une imitation de Chantal Latsou par Laurent.
Là, au moins, elle m'aurait fait rire. N'importe quelle réplique, on comprend rien à ce qu'elle raconte. Et c'est génial. Alors que là, on comprend tout, et c'est horrible.
Et moi, je suis une fan de Chantal Latsou aussi.
Si, j'adore.
Alice Sapritch, que plus personne ne reconnaît, elle avait créé le rôle en 81. Oui, elle avait joué ça. Et moi, je trouve, je suis désolée, Amanda Lear, j'ai regardé sur Wikipédia, elle a 85 ans, elle est quand même éblouissante. Elle est éblouissante, elle est drôle, elle a une présence, c'est une sorte de monstre. Évidemment, ça tient pas grand-chose, la pièce n'est pas le film, mais comme tu le disais, si on n'a pas vu, c'est quand même un rapport de force assez étonnant que cette vieille milliardaire américaine veuille prouver qu'elle est riche parce qu'elle s'est futée et elle s'est gagnée aux cartes. Et bon, c'est l'Italie un peu sous-développée de ces années-là, parce que le film est un peu ancien, face à l'américaine très riche. Donc c'est pas aussi niais que ça peut l'être, avec une jeune bonne qui est un peu marxiste. C'est pas aussi bétasson. Et ça se termine comme le film sur la réplique salaud de pauvre.
Parce que là, ça ne raconte rien de la société.
Ça ne raconte rien.
Ça ne raconte rien pour nous en comparaison au film, mais ça raconte un peu. Et moi, je suis désolée, je ne vais pas défendre ce spectacle, hein, entendons-nous. Ah. Mais je trouve quand même qu'à Mandalire, moi, je peux aller au théâtre, au boulevard, pour à Mandalire, que je trouve, il n'y en a plus des comme elle.
On va terminer là-dessus, il n'y en a plus des comme elle. L'argent de la vieille avec à Mandalire, donc en superstar, c'est au Théâtre Libre à Paris jusqu'au 21 avril. Six spectacles étaient donc au programme du Masque aujourd'hui et c'est l'heure d'en ajouter quatre autres grâce à vos coups de cœur. Vincent, tu cherches tes papiers,
oui,
tu veux commencer ou pas ?
Je veux bien, oui. D'accord. C'est l'événement d'Annie Ernaux au Théâtre de l'Atelier qui sera en tournée à partir de la saison prochaine, donc pas tout de suite. C'est Marianne Bassler qui a déjà joué du Annie Ernaux seule en scène et je trouve qu'elle est brillante. Je trouve qu'elle met vraiment, non pas elle en valeur, mais le texte d'Annie Ernaux, ce texte qui ramène Annie Ernaux aux années 60 quand elle avorte avec une faiseuse d'ange. Qu'elle est une étudiante et ça nous... C'est presque documentaire, évidemment, c'est Annie Ernaux, mais on plonge avec tristesse et souffrance dans ce qu'a pu vivre cette gamine. C'est très, très, très perturbant, c'est très instructif. J'ai senti que des gens se sentaient mal à certains moments du spectacle, mais le texte est tellement mis en valeur par cette comédienne que je vous conseille vraiment d'aller à l'atelier, voir l'événement Annie Ernaux par Marianne Bassler.
Laurent, c'est à toi, ton coup de cœur.
Alors moi, ça serait une pièce chorégraphique qui s'appelle Mal Embrigade, je ne sais même pas comment ça se prononce, Divina, qu'on peut traduire par Mal Ivresse Divine.
Ça, d'accord.
C'est beaucoup plus facile. C'est une chorégraphe-performeuse Marlène Montero-Fretas, qui est d'origine capverdienne. Ça va se passer au Théâtre du Rond-Point à Paris. C'est un spectacle formidable. C'est une pièce avec une structure en escalier sur chaque banc qui équivaut comme une sorte de tribunal ou l'Académie des Neufs pour les plus vieux et qui ont regardé la télé comme moi. Chaque banc, il y a des personnages en uniforme, alors à moins des écoliers ou des magistrats ou des policiers, avec au-dessus une sorte de roi Ubu avec une couronne sur la tête. Ça éclate et ça donne un coup de fouet à la danse contemporaine, généralement un peu compassée. Ça fait exploser absolument tous les codes. On touche là vraiment à la violence du burlesque. Il y a une bande-son extraordinaire, électrique, avec les rythmes du Cap-Vert, une tarentelle napolitaine, Maurice Ravel et Tchaïkovski, avec une version du Lac des Cygnes sous acide. Rebecca, c'est pour vous.
Redonne le titre.
Ça s'appelle « Mal embriagues divina ». Mal ivresse divine au Théâtre du Rond-Point et ça part en tournée.
Je voudrais pas dire, mais Black Legends, c'est plus facile à dire. Hein. Fabienne, c'est à toi.
C'est moins bien.
Alors moi, je vais faire très très vite. C'est le voyage dans l'Est qu'on peut encore aller voir jusqu'au 15 mars au Théâtre des Amandiers de Nanterre. C'est donc l'adaptation que Stanislas Nordet a fait du livre de Christine Angot sur l'inceste, où elle revisite, c'est de son point de vue, parce qu'elle a écrit beaucoup de livres sur l'inceste, elle a été la première à le faire, s'attirant les huées de bien des journalistes. Et donc, elle revisite son histoire. Et là, on prend la mesure qu'au théâtre, parce qu'elle a fait un film aussi, Christine Angot, qui va sortir bientôt.
Dont il sera question au Masque,
voilà,
d'ailleurs.
Sur le même sujet. Mais là, on réalise la puissance du théâtre parce qu'on comprend bien d'autres choses. Avoir des acteurs vivants qui vous jouent ça, qu'on peut le comprendre en lisant.
Et pour ma part, j'ai choisi Les paradoxes du comédien. C'est le nouveau livre de Laurence Marie qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Alors, Les paradoxes du comédien, c'est évidemment une référence au livre de Diderot. Mais là, on profite de témoignages d'artistes d'aujourd'hui qui apparaissent par ordre alphabétique. Donc, ça va de A comme Ardan Fanny à W comme Weber Jacques. Il y a aussi Vincent Dedienne, Catherine Yégel, François Morel. Et elle ouvre les témoignages aussi à des metteurs en scène. Une danseuse comme Sylvie Guilhem, une cantatrice comme Nathalie Dessay. Alors évidemment, tous répondent à cette question. Quelle est la relation qu'on tisse avec un personnage ? Question qui a été illustrée par une anecdote assez connue, je crois, sur le tournage de Marathon Man. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Dustin Hoffman n'avait pas dormi pendant 3 nuits pour jouer la fatigue. Et quand il déboule sur le plateau, Laurence Olivier lui dit « Mais pourquoi tu ne joues pas ?» tout simplement, plutôt que plutôt que de t'épuiser. Et donc, voilà, ce qui est passionnant dans ce livre, c'est d'avoir à la fois une histoire du jeu intime et collective de toutes ces personnes qui exercent ce métier très bizarre d'incarner des personnages autres qu'eux-mêmes. Je vous redonne le titre « Les paradoxes du comédien, 50 regards sur le métier d'acteur ». C'est signé Laurence Marie et c'est publié chez Gallimard. Sandrine Blanchard, Vincent Josse, Laurent Goumard, Fabienne Pasco. Ah, tu l'as pas donné. Mais décidément. Mais c'est à chaque fois, je dis. Moi, je suis désolée. Vas-y.
Non, alors, je vais très, très vite. C'est Musical Colette au théâtre Tristan Bernard. C'est jusqu'à la fin mars. Et ça va peut-être être prolongé, ou en tout cas, ça va tourner. C'est obligé parce que c'est. Moi, j'ai pris un plaisir fou. À découvrir ce spectacle qui est librement adapté de la vie de Colette, et j'ai découvert une comédienne géniale, Cléo Seignat. On oublie qu'elle est seule en scène, tant elle se démultiplie pour incarner, danser, chanter Colette. C'est mis en scène par Léna Bréban d'une manière, avec une inventivité folle. C'est un tourbillon, enfin franchement, allez-y, c'est pas une biographie exhaustive, c'est pas un biopic classique, mais c'est une mise en abîme parce que et Cléo et Colette, en fait, se répondent. Voilà, ça dégage une incroyable liberté, ça... C'est vraiment un. Ça dure une heure et demie et c'est formidable.
Bah merci et pardon d'avoir oublié de te donner la parole pour ce coup de cœur. Merci, je le redis, Laurent Goumard, Sandrine Blanchard, Fabienne Pasco et Vincent Josse pour avoir participé à ce Masque et la Plume. Les prochains enregistrements de l'émission auront lieu le jeudi 14 mars, toujours à la même heure, entre 19 et 21h, et toujours au même endroit, au Théâtre de l'Alliance Française. Sauf que ce 14 au soir, nous parlerons de l'actualité littéraire d'abord, et de cinéma ensuite. Audrey Ripouille réalise Le Masque et la Plume, et c'était avec Marie le Peintre, Luna Bricotto, Julie Garraud aujourd'hui. Merci à Ilinka Negulesco pour la préparation et coprogrammation de l'émission. Merci aussi à Célestine Babinet et à Benoît Chauvet, régisseur, du théâtre qui nous accueille. Eux et moi, vous retrouvons dimanche prochain pour un nouveau Masque et d'autres plumes sur France Inter, évidemment.